Luc 24, 36. Les disciples parlaient encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit, mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi de pareilles pensées surgissent-elles dans votre cœur ? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et regardez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous le voyez bien, j'en ai. » En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Et cependant, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore, et ils étaient dans l'étonnement. Alors il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé et un riant de miel. Il en prit et mangea devant eux. Puis il leur dit, « C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi, il était écrit. » Et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Et voyez le contraste par rapport au début de Luc 24. Les femmes vont au tombeau pour accomplir un rite funéraire. C'est la dépression totale. Christ est mort, Jésus est mort, Jésus a été crucifié. Les disciples sont déboussolés, c'est la catastrophe. Et voilà que là, Jésus apparaît aux disciples et tout d'un coup on sent, à travers les mots qui sont utilisés, que le visage des disciples change et que le sourire leur revient sur les lèvres. Et regardez cette apothéose, versets 50 à 52. Il les conduisit jusque vers Béthanie, puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. De nouveau, il les quitte. Et là, leur réaction n'a rien à voir avec ce qui s'est passé à la croix. Il les quitte et regardez ce qu'il se passe. Verset 52. Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem remplis d'une grande joie. Ils étaient constamment dans le temple, louant et bénissant Dieu. Waouh, quelle transformation! Ce début de Luc 24, ça commence par la déprime, la tristesse. Ils ont le moral à zéro. Mais ça se termine par l'adoration, la louange et la joie. Et ils sont pleins d'espoir et ils sont heureux, alors même que Jésus les a quittés une seconde fois. Mais ils sont remplis de cette promesse. Jésus a dit, je vous enverrai un consolateur, le Saint-Esprit va arriver. Ils savent que désormais, tout ce que dit Jésus, c'est vrai, vrai, vrai. Et ils ont confiance en lui. Il se trouve que ce changement assez fou se réalise d'une manière très, très bien construite de la part de Luc. Souvenez-vous comment commence l'évangile de Luc, chapitre 1. Alors, pour ceux qui étaient là le 25 avril 2021, hein, vous vous souvenez très bien de ce début de Luc. Je plaisante bien sûr, mais j'aimerais relire ces premiers versets de Luc 1. Donc je suis dans Luc 1, verset 1. « Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus des serviteurs de la parole. Il m'a donc paru bon à moi aussi, qui me suis soigneusement informé sur toutes ces choses dès l'origine, de te les exposer par écrit, d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. » Ainsi, ce que Luc nous explique, c'est que la transformation de l'état d'esprit des disciples dans Luc 24, d'un état dépressif, démoralisé, sans plus d'espoir, à un état plein d'espoir, plein de joie, plein de louange et d'adoration, eh bien, cette transformation, elle n'est pas seulement valable pour les disciples il y a 2000 ans, elle est valable aussi pour tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus aujourd'hui. Et plus que ça, c'est que Luc souhaite que Théophile ait une certitude. Luc souhaite que Théophile soit convaincu à 100%. Et comment il fait ça? Alors souvent on parle de Luc comme un médecin, mais qui a aussi une démarche d'historien, et qui donc fait attention de chercher d'apporter des preuves, de s'appuyer sur des sources qu'il croise pour montrer que ce qu'il dit est vrai. Et dans Luc 24, en fait, ce chapitre pourrait avoir pour titre l'équipe des témoins de la résurrection de Jésus. Puisque ce que Luc nous montre dans Luc 24, c'est que c'est pas juste que le tombeau était vide et bim, Jésus apparaît aux disciples. C'est plus que ça. C'est qu'en fait, il y a une série de personnes qui viennent attester des preuves matérielles de la résurrection de Jésus. Alors, un exemple tout simple, mais je ne veux pas m'étaler là-dessus parce qu'on a déjà abordé ça ici, mais les femmes qui arrivent au tombeau et qui voient que le tombeau est vide et qui vont ensuite dire aux disciples « Le tombeau est vide, il y a des hommes qui nous sont apparus et qui nous ont dit que Jésus était ressuscité. » Et ça, c'est un des arguments très très forts pour aller dans le sens de la véracité de la résurrection, puisque dans la culture de l'époque, on accordait peu de crédit, d'une part, à la parole de femmes, mais encore plus à des femmes qui n'étaient pas comme Luc, médecin, ou qui n'étaient pas notables dans la société. C'était voilà, de simples femmes. Et pourtant, ce sont elles les premières qui vont attester de la résurrection de Jésus. Et si le récit avait été fabriqué de toutes pièces, certainement qu'on aurait commencé par citer Hérode ou bien des personnes éminentes pour attester. Non, là, c'est des personnes qui ont peu de poids qui viennent attester de cette résurrection. Alors, je vous propose de continuer à célébrer cette résurrection en partageant ensemble la scène, puisque le lien entre la résurrection et la scène est direct, puisque c'est extraordinaire parce qu'en partageant le pain, en partageant le vin, on veut se souvenir que Christ est mort pour nous, qu'il a été crucifié pour nous, que son sang a coulé pour nous, mais on veut aussi se réjouir parce que c'était une étape qui nous a permis de nous sortir de la dépression, de l'absence d'espoir, de l'absence d'espérance vers une espérance, puisque celui en qui l'on croit et que l'on adore est vivant. Alors j'aimerais vous proposer de Luc 24, j'ai lu la fin, il reste le milieu. Et j'aimerais vous lire ce milieu, donc Luc 24, chapitre 13, qui est un passage bien connu, intitulé « Les pèlerins du chemin d'Emmaüs ». Donc Luc 24, 13. « Ce même jour, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé de ces jours-ci » ?»« Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui était arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. » Et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Puis en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qu'il concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le retinrent avec insistance en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Alors il entra pour rester avec eux, et pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les onze et les autres qui étaient rassemblés. Ils leur dirent, et qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. » Alors les deux disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu, ils l'avaient reconnu au moment où ils rompaient le pain. Ah là là, ces pèlerins d'Emmaüs dont nous sommes tous jaloux parce qu'on aimerait bien aussi parfois cheminer avec Jésus à nos côtés pour nous expliquer les Écritures. Quel passage qui montre de manière très frappante que entre le début de Luc 24, où c'est la déprime totale, d'ailleurs au début de ce passage, on voit ces disciples qui sont complètement au bout du rouleau, hein, ils espéraient que Jésus était le prophète qui allait libérer Israël. Ils parlent vraiment au passé, ils sont dans la désillusion totale, le désespoir, bref. Et puis, de manière incroyable, à la fin du passage, lorsqu'ils voient Jésus, ils se disent « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous ?» Quelle transformation dans leur cœur. Alors, cette compréhension progressive de la résurrection et de ce que Jésus a accompli chez ses disciples a des implications pour nous. Et j'aimerais partager avec vous deux implications. La première, c'est que je ne peux pas m'empêcher d'être surpris de voir que Jésus répète encore et encore à ses disciples qu'il est vivant, qu'il est ressuscité, mais que c'est ce qu'il avait déjà dit à plusieurs reprises à tous. Il n'y a pas de surprise. Comment ça se fait que les disciples n'ont pas fait le lien entre ce que Jésus avait annoncé et ce qui se passe maintenant, la réalité de la résurrection que Jésus a... Alors, on a une clé ici qui dit que leur intelligence était obscurcie et qu'ils ne pouvaient pas comprendre ce qu'il se passait. Et en même temps, tout d'un coup, tac, leur esprit s'ouvre. On voit au verset 45, « Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. » Et quelle est l'implication pour nous? Alors la première, toute simple, c'est que bien souvent, on lit la parole, on écoute l'enseignement le dimanche matin ici, on sait ce qu'est l'Évangile, mais quand il s'agit de le traduire concrètement dans notre vie quotidienne, ben là, il y a comme un fossé qui fait que, oui, l'Évangile, c'est Christ est mort pour moi, il m'aime et il est ressuscité, et puis dans ma vie quotidienne, comment faire le lien? C'est pas toujours facile, et c'est pas toujours intuitif. Et c'est un peu une de nos motivations de continuer dimanche après dimanche à prendre la parole ici devant, c'est justement de transmettre des pistes et de nous aider à mieux comprendre comment l'Évangile se transforme concrètement dans nos vies. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, Aurélien, montrer la dernière diapo là, que j'ai dans mon diaporama? J'aimerais vous parler d'un Américain qui s'appelle Rob Greenfield. Alors, Rob Greenfield est célèbre pour une raison, c'est que les 112 objets que vous voyez autour de lui, c'est tout ce qu'il possède. Il n'a rien d'autre. Il a fait le choix de la décroissance et de protester contre la société de consommation. Et donc, voilà, il a une chaîne YouTube où il raconte comment il vit avec juste 112 objets, etc. Bon, après, il aime bien aussi marcher pieds nus, donc il est souvent pieds nus aussi, même si là, il a une paire de chaussures. Bref, c'est pas ça le temps qui m'intéresse, c'est que Rob Greenfield se déplace en vélo. Et son vélo, c'est vraiment essentiel pour lui. Voilà, c'est compliqué de vivre sans vélo. Ouais. Ouais, ça pour mettre les... Et en fait, pas de bol, un jour, il était en Californie, au bord de la mer, il veut regarder le coucher de soleil, il pose son vélo derrière lui, sur le banc, et puis, en fait, on lui vole son vélo. Et il raconte toutes les émotions, la palette des émotions par laquelle il est passé suite au vol de son vélo, de la colère, de la haine, etc. Puis il réfléchit, puis il se dit, non, mais en fait, il faut que je retrouve mon vélo. Et il part, il fait une enquête en fait, et il part à la recherche de son vélo, et il termine dans un squat de SDF, paumé à Los Angeles, un quartier bien, vraiment un peu dangereux, quoi, etc. Mais il retrouve son vélo. Mais pas seulement son vélo, il retrouve la personne qui a racheté son vélo à celui qui lui a volé son vélo. Et finalement, bref, il retrouve la personne qui lui a volé son vélo, qui est un jeune voilà, qui a une vie compliquée, qui est paumé, etc. Et en fait, plutôt que de lui envoyer son poing dans la tête, il discute avec ce jeune, et puis en fait, il décide d'aider ce jeune et de l'accompagner. Et je me suis dit, là, en fait, par cet exemple, ben, on a un exemple concret de ce que l'Évangile fait lorsqu'on l'applique à notre vie quotidienne. Dans les difficultés que je peux rencontrer, ou dans les situations que je peux vivre qui nécessitent de faire un choix, se pose la question de que ferait Jésus à ma place ? Comment l'Évangile de la grâce de Dieu qui m'a aimé alors que je ne le méritais pas, comment est-ce que je peux l'appliquer et le vivre dans la réalité de mes choix quotidiens ? Et pour circuler pas mal en vélo dans Lyon, je vous avoue que c'est quelque chose d'assez concret. Pour rester poli envers les... pas les voitures, j'aime les voitures, mais les autres vélos. Excusez-moi pour cette discrétion personnelle, mais on peut l'appliquer chacun à nos vies quotidiennes et à savoir voilà, comment l'Évangile peut s'appliquer et se traduire de manière réelle et concrète dans ce que l'on vit pour réagir autrement que ce que notre première intention serait. Et de dire, oh là, pause, comment Christ réagirait à ma place ? Deuxième implication, c'est qu'on voit clairement que comme les disciples ici et toutes les personnes qui l'entouraient ont eu besoin d'avoir leur intelligence ouverte pour comprendre les Écritures, on voit clairement que nous aussi, nous avons besoin que notre intelligence soit ouverte pour mieux comprendre les Écritures. Et pour cela, nous avons besoin d'être convaincus de l'importance et de la centralité des Écritures dans notre compréhension de qui est Jésus et dans notre compréhension de la manière dont nous sommes en relation avec Dieu. Très clairement, verset 45, « Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. » On le voit aussi un peu avant lorsqu'il leur explique dans toutes les Écritures, dans les prophètes, dans les psaumes, dans les livres historiques, ce qui concernait le Messie. Bref, on voit que ce que Jésus affirme ici, c'est qu'en réalité, tout l'Ancien Testament parle de lui. Et lorsqu'on lit l'Ancien Testament, c'est pas seulement un récit d'histoire et de trajectoire et de biographie et de conflits et de mariages, etc. Non, ce sont des choses qui ont été écrites pour nous faire mieux comprendre qui est Christ. On connaissait cette citation célèbre de Calvin qui disait que l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament caché, et le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament révélé. L'Ancien Testament nous parle de Christ sans jamais le nommer expressément, même si on pourrait discuter de ça, mais il est là, présent dans tout ce passage. Et le Nouveau Testament nous aide à mieux comprendre cela. D'ailleurs, il se trouve que Jésus, pour prouver aux personnes qui sont, aux disciples en fait, qu'il est bien vivant, il mange devant eux. Puisque eux, ils pensent en fait voir un esprit, un fantôme. Hein, et lui, il va leur prouver qu'il n'est pas un fantôme, puisqu'il est bien matériel. Il leur montre ses mains, ses pieds qui sont percés, et puis il mange. Et c'est intéressant parce qu'il mange. Il mange quoi ? Il mange du miel. Et vous savez, il y a une histoire comme ça dans l'Ancien Testament du fils de Saül, le premier roi d'Israël, qui lors d'une grande journée de bataille a une chute d'hypoglycémie. Il n'en peut plus, il est fatigué et il faut qu'il mange. Il voit, il est dans la forêt, il voit un tronc d'arbre, il y a du miel qui dégouline et il se sert et il mange ce miel. Pas de chance, son père avait fait jurer à toute son armée qu'il ne fallait pas manger tant que la bataille était terminée. Lui, le sachant pas. Mais sur le moment, le texte nous dit que lorsque Jonathan a mangé ce miel, ben, tout de suite il s'est senti mieux. Et le miel, dans les Écritures, a plusieurs significations, mais il a, dans notre contexte ici, une signification qui est intéressante. Dans le psaume 19, est-ce que tu peux me montrer ça sur la diapo juste avant? Dans le psaume 19, voilà ce qui nous est dit du miel. Les commandements de l'Éternel sont clairs. Ils éclairent la vue, ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi est éclairé par eux. Pour celui qui les respecte, la récompense est grande. Là, les commandements de l'Éternel, c'est-à-dire les Écritures, la parole de Dieu, est comparé ici à du miel. Et un miel qui permet d'éclairer les yeux. Et cette volonté de Jésus d'éclairer, de manger ce miel devant ses disciples, c'est ça qui participe à leur ouvrir les yeux pour comprendre que c'est bien Jésus qui est devant eux. Et leur ouvrir les yeux que, oui, les Écritures, donc le miel, les Écritures sont bien là pour leur faire comprendre que ce qui se passe devant eux est l'accomplissement de ce qui était annoncé auparavant. Donc, comme j'aime bien le dire, manger du miel. Pour aller plus loin dans cette importance des Écritures, on touche ici à un aspect théologique qui s'appelle la doctrine des Écritures et qui insiste sur ce fait que Christ est au centre des Écritures. En fait, l'Ancien Testament est vraiment un tout cohérent. Jésus est au centre. Mais il y a trois choses importantes à noter. C'est que je veux comprendre qui est Jésus. Je veux mieux cerner qui est Jésus. J'ai besoin de l'Écriture. 2 Timothée 3, 16, 17, vous connaissez cette phrase célèbre, « Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit équipé et propre à toute bonne œuvre. » Donc l'Écriture est indispensable pour connaître qui est Jésus. L'Écriture est complète, est terminée, est suffisante. Il n'y a rien à ajouter à ce que l'on trouve dans les Écritures pour comprendre Jésus. D'ailleurs, c'est précisé dans 2 Pierre chapitre 1, verset 3-4, « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. » Vous avez l'impression que dans votre vie chrétienne, il manque quelque chose ou que votre vie est... Vous avez l'impression de marcher en boitant, donc que votre vie est bancale, etc. C'est possible. Et n'hésitez pas à venir vers un responsable pour en parler. Parce que la réponse à votre problème se trouve dans les Écritures. La parole a tout ce qu'il faut pour répondre à nos besoins et pour répondre à nos questions en ce qui concerne Jésus-Christ. Et troisième chose, nous sommes des privilégiés. Eh oui, pourquoi? Ces disciples ici, dont l'intelligence était obscurcie, qui n'arrivaient pas à comprendre, dans Matthieu 13, versets 16-17, Jésus dit « Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Nous sommes des privilégiés d'avoir aujourd'hui une révélation qui est complète et d'avoir à la fois le début de l'histoire et la fin de l'histoire. Et ça, c'est une grâce énorme. Alors, ce sera ma conclusion. Que fait Jésus en fait dans ce passage de Luc 24? Eh bien, Jésus guérit des aveugles sur le plan spirituel et par un moyen assez puissant. Pourquoi est-ce qu'il guérit les aveugles sur le plan spirituel? Parce que ce récit des disciples d'Emmaüs se place dans un cadre précis. Dans Luc 4, où Jésus a son discours qui inaugure son ministère, Jésus avait lu le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe qui disait qu'il était le prophète qui était venu là pour permettre aux aveugles de recouvrir la vue. Et dans Luc 24, on voit bien qu'on a des disciples ici qui recouvrent la vue, non pas sur le plan physique, mais sur le plan spirituel. Et donc, comme les disciples ici qui étaient incapables de le reconnaître, et qui, au verset 31, ont vu leurs yeux s'ouvrir et l'ont reconnu, eh bien, nous aussi, nous avons besoin d'avancer de révélation en révélation pour mieux comprendre qui est Christ. Quand je dis que la parole est complète, il y a une limite, c'est qu'en fait, notre compréhension de la parole est incomplète. Et même après 30 ans de vie chrétienne, 20 ans de lecture de la Bible régulière, j'ai compris plein de choses. Et je peux vous apprendre plein de choses, mais il me reste encore tout à apprendre. Et surtout, à le transformer dans mon caractère et ma vie réelle. Et c'est en cela où c'est extraordinaire, parce que je souhaite continuer à marcher sur ce chemin d'Emmaüs. Et comme Jésus a guéri ses disciples en les amenant de la cécité à la vision spirituelle, j'ai besoin jour après jour de prendre du temps sur le chemin d'Emmaüs pour que Christ m'ouvre les yeux et me fasse mieux comprendre qui il est et ce qu'il est et comment il peut transformer ma vie. Comment Jésus a permis à ses disciples d'ouvrir les yeux ? Eh bien, tout simplement par sa résurrection. Parce qu'il est ressuscité, qu'il s'est tenu vivant à côté d'eux et qu'il leur a expliqué les Écritures, eh bien, eux ont pu passer de la cécité spirituelle à la vue spirituelle. Et vous voyez, on a besoin d'affirmer et de proclamer que Christ est ressuscité, d'affirmer et de proclamer que Christ est vivant, d'affirmer et de proclamer que Christ est remonté au ciel. Et comme l'un d'entre vous l'a prié, de croire qu'aujourd'hui, il intercède pour nous, il est toujours vivant pour prendre soin de nous et s'occuper de nous, et nous remplir de son Saint-Esprit, qui est là pour nous, comme les pèlerins d'Emmaüs qui étaient avec Jésus à leur côté, le Saint-Esprit était à nos côtés chaque jour pour nous éclairer et mieux nous faire comprendre qui est Christ.